La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Nous sommes un train de développement économique qui ne peut pas tenir pour des décennies.
Le mythe de la croissance infinie, la croissance quantitative, la croissance matérielle.
Et beaucoup de gens ont pensé que nous étions des génies parce qu'ils pensaient que nous avions prédit ce qui allait arriver.
Certains livres, certains ouvrages, certains textes forgent les esprits, éveillent les consciences, marquent des générations.
Puis peu à peu, les mots perdent de leur éclat, les idées semblent pâlir et les livres traînent fermés dans les rayonnages des bibliothèques.
Mais parfois, certains textes reprennent vie et tout à coup, c'est comme si ces mots venaient d'être inventés.
C'est ce qui est arrivé à deux textes, écrits presque au même moment, il y a 50 ans. Écotopia, un roman d'anticipation, et Les limites à la croissance, un texte scientifique, un texte de référence qui va faire un carton des ventes, connu sous le nom de rapport Meadows.
Un texte qui résonne très fort aujourd'hui, à l'heure de la crise climatique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue, archéologie de bibliothèque au programme. Donc aujourd'hui, pour raconter l'histoire de deux livres qui nous relient à un enjeu très actuel.
Et c'est celui de la décroissance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept économique, politique, sociale qui dit que nous devrions freiner notre consommation pour éviter le crash du système Terre. Et derrière, il y a l'idée que la croissance économique, telle qu'elle est mesurée aujourd'hui par une série d'indicateurs, comme le fameux PIB, ne garantit pas le bien-être et l'équilibre des sociétés humaines.
Parce qu'aujourd'hui, la question de savoir si nous devons choisir de ralentir la croissance économique au profit de mesures pour éviter les changements climatiques, c'est un enjeu majeur, c'est une vraie question de société, une question qui est terriblement clivante. Alors nous avons décidé de nous plonger aux racines de ce concept de décroissance dans les années 70.
Et nous avons décidé de vous raconter l'histoire un peu surprenante du Club de Rome, un club d'industriels, de scientifiques, d'économistes triés sur le volet qui va accoucher du fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance. Et vous allez voir que cette idée qui semble plutôt révolutionnaire, on dirait disruptif hein, dans la novlangue d'aujourd'hui, est le fruit d'une élite mondiale plutôt industrielle.
Alors comment ça s'explique? Et puis quel est l'héritage aujourd'hui du Club de Rome et du rapport Meadows? Nous entendrons l'actuelle présidente du Club de Rome, Sandrine Dixon-Declèves, coprésidente du Club de Rome. Et nous recevons Philippe Roman, économiste chargé de cours à l'ICHEC et à l'UC Louvain. Bonjour.
Bonjour.
Selon vous, pourquoi est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui, en 2023, d'aller se replonger dans ce texte, le rapport Meadows, qui a été écrit il y a 50 ans?
Parce qu'il a inspiré beaucoup de travaux, il a inspiré des mises à jour régulières depuis donc, le début des années 70, il a été remis à jour à la fin des années 90, au début des années 2000, il est encore remis à jour aujourd'hui, il est encore discuté comme étant précurseur. Alors, il y a certaines choses qui doivent être remises mises au point par rapport à ce rapport. Le fait notamment que ce ne soit pas un rapport qui a fait des prédictions, qui se voulait faire des prédictions, mais plutôt des scénarios pour ouvrir les yeux assez largement des personnes sur les futurs possibles. Voilà. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de chercheuses et de chercheurs reprennent à ce compte cette idée de visualiser des futurs possibles et faire ce qu'on appelle de la prospective. Et cette prospective, elle est aujourd'hui beaucoup, beaucoup développée.
Oui, le fait d'essayer de savoir ce qui se passe dans le futur, ouais. Clairement, c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui. On voit très bien où on en est.
Allez, on se replonge donc dans nos archives et dans deux livres, un texte scientifique et un roman d'anticipation.
May 5, 1999. William Weston, journaliste, grand reporter, envoyé par le Times Post, vient de pénétrer dans l'Écotopia. Cet étrange pays qui borde la côte pacifique américaine a déclaré son indépendance 20 ans plus tôt. La Californie, l'Oregon et l'État de Washington ont fait sécession pour fonder une société utopique. William Weston est le premier Américain autorisé à pénétrer sur le territoire écotopien. Journaliste, il est là pour raconter ce qu'il voit. Et voilà ce qu'il décrit en sortant de la gare de San Francisco.
J'ai eu mon premier choc dès que j'ai mis les pieds dans la rue. Tout était étrangement silencieux. Je m'attendais au brouhaha excité de nos grandes cités, klaxons de voitures, va-et-vient des taxis, foule pressée débordant des trottoirs. Une fois remis de la surprise causée par ce silence, j'ai constaté que Market Street, autrefois un boulevard animé traversant toute la ville jusqu'au front de mer, était devenu une promenade plantée de milliers d'arbres. La rue, proprement dite, où ronronnent taxis électriques, minibus et fourgons de livraison, comporte seulement une chaussée à deux voies. L'espace restant, qui est énorme, est occupé par des pistes cyclables, des fontaines, des sculptures, des kiosques à musique et de ridicules jardinets entourés de bancs. Sur tout le paysage plane ce silence, presque lugubre, ponctué par le léger vrombissement des bicyclettes et des cris d'enfants. Parfois aussi incroyable que cela puisse paraître, dans l'artère principale de la capitale, on entend même un oiseau chanter.
Cette description de San Francisco métamorphosée démarre à la page 38 d'un livre sorti il y a presque 50 ans et qui va devenir un best-seller prophétique, Écotopia, d'Ernest Kallenbach. Le roman, publié en 1975 aux États-Unis, décrit une société idéale, fondée sur le bien-être de ses habitants. Ils vivent de la nature avec parcimonie, sont retournés vivre dans les centres-villes, transformant les tours de bureaux en logements, vivant de voitures électriques et de plantes. Une organisation avancée technologiquement, les écotopiens utilisent par exemple le vidéophone, mais la technologie est utilisée avec modération. Dans ce livre, Écotopia, Ernest Kallenbach propose une nouvelle conception du progrès.
La croissance que le progrès consistait dans une augmentation des biens, des goods, des automobiles, des téléphones, de je ne sais quoi. On questionne maintenant cette croissance automatique. Je crois que dans le futur, il sera beaucoup plus clair que la qualité de la vie dépend en effet d'une diminution de certaines consomptions et que la qualité de vie, en effet, n'est pas une affaire tout à fait matérielle. Que, par exemple, le nombre de gens dans une ville peut facilement devenir excessif.
Écotopia va se vendre à 1 million d'exemplaires. C'est un énorme carton littéraire. Le succès ne tient pas tant à la qualité de l'écriture du roman. En ce milieu des années 70, le projet sociétal fait rêver. Le choc pétrolier de 1973 a allumé une inquiétude dans la tête des consommateurs du monde occidental. Ernest Kallenbach débarque avec une utopie positive et l'idée que la croissance économique n'est peut-être pas infinie. Cette idée-là, il ne l'a pas inventé tout seul. Pour comprendre d'où vient l'idée que la croissance a des limites, il faut remonter le temps un tout petit peu. Raconter l'histoire d'un autre improbable best-seller, un autre livre qui va s'écouler à des millions d'exemplaires partout dans le monde et faire la rencontre à la fin des années 60 d'un homme étonnant. Un Italien du nom d'Aurelio Peccei. Moustache blanche, cheveux blancs, blazer et cravate, Aurelio Peccei a bel et bien l'allure d'un homme d'affaires qui a tout réussi. Patron d'Olivetti, cadre dirigeant de Fiat, alors que les 30 glorieuses courent encore sans l'ombre d'un doute, le discours de ce patron italien, de ce capitaine d'industrie, est étonnant.
C'est l'unique animal, l'homme, qui n'a pas le sens de son espèce. Et c'est un manque assez grave quand on devient si nombreux que nous sommes déjà maintenant, et encore plus nombreux comme nous le serons dans 10, 15, 20 ans. Nous nous doublons encore dans l'espace de 3 décennies. Et si nous ne changeons pas quelque chose de fondamental dans notre gestion de nous-mêmes, de notre société, dans nos comportements, ce que nous disons, nous croyons que nous allons tomber dans une crise à l'autre. Et il faut changer quelque chose dès maintenant.
Inquiet des tourments de son époque, Aurelio Peccei pense qu'il faut faire une pause et réfléchir à l'avenir et à ce que l'humanité est en train de faire. Pour faire le point, pour réfléchir, Aurelio Peccei lance une série d'invitations. Économistes, banquiers, statisticiens, hauts fonctionnaires, responsables politiques, qu'ils viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suisse, de Belgique, de Suède, d'Allemagne, Aurelio Peccei invite tout ce beau monde à Rome, chez lui, dans un somptueux bâtiment. Le matin du 6 avril 1968, ils sont une vingtaine assis autour d'une longue table. Dans la Loggia di Galatea de la Villa Farnensina, la fresque sur le mur a été peinte par Raphaël. Le monde économique, intellectuel et scientifique se rassemble. Il n'y a aucune femme parmi les participants. Aux côtés d'Aurelio Peccei, il y a les deux convaincus de la première heure, un Écossais, le chimiste Alexander King, et un physicien suisse, Hugo Thiemann.
Il y avait 3 jours de discussion. Et après ces discussions, qu'est-ce qui était le résultat? C'était un peu, je dirais, mitigé. Il y a quelques personnalités, surtout, je me souviens, des Allemands, qui n'étaient pas trop convaincus. Toutefois, il y avait quelques éléments pour une continuation. Mais finalement, il y avait un consensus qu'on sentait bien se dessiner vers la fin, du fait qu'on se disait, il y a quelque chose vrai à la base. Il faut lancer quelque chose sur le plan mondial, mais que l'Europe seule serait pas capable de faire quoi que ce soit.
La réunion de Rome accouche donc quand même de quelque chose. Cette idée qu'il faut tenter de mettre la situation à plat, de mettre les chiffres, des mots, sur les risques pour l'avenir. Comprendre la grande équation de la planète Terre et surtout, comprendre si cet équilibre pourrait un jour basculer. Or, pour mener ces recherches, il faut de l'argent.
Il a fallu chercher des sources financières pour une telle étude, et ce qui n'était pas facile. Alors, un des membres qui nous a joints peu après la création, c'était le professeur Pestel en Allemagne. Lui était dans le conseil de la fondation Volkswagen en Allemagne, et lui a pris feu en disant que c'est une excellente chose et que la Volkswagen Foundation devrait fournir l'argent.
L'argent trouvé, reste à savoir comment faire, comment s'y prendre. Il faudra attendre quelques mois. Et la séance inaugurale du Club de Rome à Berne, chez le physicien suisse Hugo Thiemann.
Et il y avait, par hasard, un membre américain qui a une capacité technique extraordinaire, qui était présent à cette séance. Et lui, c'était Forrest, professeur au MIT, qui m'a dit, après cette journée de discussion, qu'il a vécu le jour le plus intéressant de sa vie. Et il voit que nous, Club de Rome, nous cherchons à résoudre un problème, de le définir et de résoudre, et nous n'avons pas d'outils de le faire. Alors, lui a dit, mais j'ai un outil à proposer, et si vous voulez, je serai prêt de vous expliquer ce que je pense. Et ce qu'on a fait dans une séance tard de la soirée, lui a expliqué sa méthode. Forrester est ingénieur électricien, est un original dans sa façon de faire, un inventeur très connu aux États-Unis. 2 semaines après, il nous a invités de venir à Boston. Et pendant son vol de Berne à New York, il a déjà gribouillé sur papier ce que vous trouvez aujourd'hui dans le rapport des Myths of Growth.
De retour à Boston, après avoir griffonné ses idées dans l'avion, Jay Forrester confie la mission à une équipe dirigée par Dennis Meadows et sa femme, Donella Meadows. 2 ans plus tard, en 1972, sort le rapport Meadows. Il modélise l'impact des croissances démographiques et économiques humaines sur les ressources environnementales mondiales. Son titre, The Limits to Growth, les limites à la croissance. L'intuition d'Aurelio Peccei est confirmée par la science, est confirmée par les modèles informatiques utilisés pour mener les recherches. L'industriel italien va l'expliquer partout dans le monde.
Il fallait vraiment réveiller l'opinion publique, la classe politique, les milieux dirigeants, pour qu'ils examinent la situation, qu'ils prennent conscience que nous sommes en train de développement économique basé sur une expansion démographique qui ne peut pas tenir pour des décennies.
D'où viennent ces idées?
Je pense que ceux qui nous écoutent l'ont dans leur âme, dans leur cerveau. L'idée que dans le monde, il y a une explosion démographique, que nous sommes beaucoup c'est peut-être trop déjà, et que nous croissons à une vitesse dangereuse. Cette idée, c'est une idée assez vieille, n'est-ce pas ? Et que la croissance économique qui fait tant de bienfaits et qui porte de la prospérité, de la sécurité, a son revers de la médaille. Tout le monde voit que nous avons des pollutions, des destructions de la nature, des chocs entre le système humain et notre environnement terrestre. Alors, l'idée qu'il faut faire une pause, qu'il faut faire des réflexions, qu'il faut méditer sur la condition de l'homme à l'ère technologique, disons au commencement de l'ère technologique, cette idée est une idée assez répandue. Nous avons seulement je ne dis pas l'habilité, mais la chance de la mettre d'une façon compréhensible, diffusable, utilisable.
Les limites à la croissance sort en livre et c'est un énorme succès. Il est vendu à 8 millions d'exemplaires. Il faut dire que le choc pétrolier de 1973 est en train de modifier la perception des populations. L'abondance des ressources, du pétrole notamment, pour une société dont le modèle industriel est fondé sur le pétrole, n'est plus si évidente que ça. Le livre, Les limites à la croissance, vient totalement coller à l'esprit de l'époque, y compris à l'esprit de ceux qui vont s'engager en politique. En France, René Dumont est agronome. Mais surtout, en 1974, 2 ans après la publication du rapport Meadows, il est le premier candidat à se présenter à l'élection présidentielle sous l'étiquette écologiste.
Nous sommes gouvernés par des réalistes. Nous sommes à l'intérieur d'un système capitaliste. Et les éléments les plus intelligents dans ce système capitaliste, les grands industriels, le Club de Rome était financé par Fiat et par Volkswagen. Quelle a été la première conclusion du Club de Rome ? C'est la condamnation de l'automobile particulière. Ah, c'est intéressant. C'est la première fois que les capitalistes publient une conséquence de leur recherche qui va contre leurs intérêts à court terme. Alors, c'est que la menace est sérieuse. L'utopie, pour moi, s'impose maintenant. Ce que j'appelle l'utopie, c'est quoi ? J'appelle l'utopie une solution qui s'impose pour la survie prolongée de l'humanité, mais qui n'est pas acceptable par l'opinion publique actuelle, qui, elle, la considère comme une utopie. Alors les réalistes, les capitalistes, nous disent « Nous vous menons à la catastrophe tout droit, sans rémission. » Ils précisent la date, vers le milieu du siècle prochain. L'an 2050, c'est même pas si loin. Les jeunes d'aujourd'hui, les plus jeunes, les enfants, le connaîtront. Alors, puisque les capitalistes nous disent « On vous mène à la catastrophe », puisque les réalistes nous disent « Nous vous menons à une catastrophe inéluctable », eh bien laissez la place, on va chercher à élaborer une nouvelle civilisation. Et cette nouvelle civilisation, on peut la datée, elle est en cours, elle est commencée.
Une nouvelle civilisation qui allait sortir du pétrole, qui resterait à l'intérieur des limites de la croissance. 50 ans plus tard, ce monde-là n'est pas advenu. Mais le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, a eu un véritable impact. Comme le racontait un de ses anciens présidents, le français Bertrand Schneider, dans les années 80.
D'abord, c'est la première fois qu'on utilisait un modèle mathématique pour essayer d'évaluer les grandes tendances à venir du monde dans les 20 années. La deuxième raison, ça a été une coïncidence tout à fait incroyable entre ce rapport et puis la crise pétrolière. Et beaucoup de gens qui n'avaient pas très bien lu le rapport, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, ont pensé que nous étions des génies parce qu'ils pensaient que nous avions prédit ce qui allait arriver. Je crois qu'il faut ramener les choses à une plus juste proportion. Il faut d'abord dire que ce rapport n'a pas été approuvé par l'ensemble des membres du Club de Rome, que beaucoup de gens étaient en désaccord avec ces réflexions. Il faut dire aussi que ce rapport a eu le mérite de provoquer dans le monde un immense débat qui n'est toujours pas terminé. Et s'il contient des erreurs, il a eu ce mérite donc de provoquer un débat, notamment sur les problèmes d'environnement, et de montrer que plus il y avait de populations vivantes sur le globe, plus les déchets et la pollution risquaient de mettre en cause cet environnement qui était pourtant notre patrimoine et que nous devions léguer à nos enfants, aussi intact que possible. Il a également eu le mérite d'attirer l'attention sur le fantastique gaspillage de matières premières qui existait, et par conséquent de dire aux gens « attention, économisez les matières premières ». Si ce rapport a fait beaucoup de bruit, et il a été édité à 8 millions d'exemplaires dans, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, une quarantaine de langues différentes, Il continue aujourd'hui à être diffusé en Chine et à être un ouvrage de référence dans pratiquement toutes les universités. Ce rapport a donc créé une notoriété soudaine pour le Club de Rome qui ne s'attendait pas à tout cela.
Personne n'aurait pu prédire que Les limites à la croissance, un rapport scientifique publié par une équipe du MIT, allait devenir un best-seller. Exactement comme pour le roman utopique Écotopia d'Ernest Kallenbach. Pourtant, les deux ont laissé des traces durables. Le rapport Meadows a connu des mises à jour au fil du temps. Écotopia avait été un peu oublié, mais il a été réédité en 2018, renouant avec le succès d'il y a 50 ans.
La première...
L'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
On retrace le fil qui nous mène de la fin des années 60 à aujourd'hui à travers l'action du Club de Rome, club de réflexion qui a commandé ce fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance. Avant d'aller plus loin, il y a une chose qu'il faut vous dire à propos de cette histoire.
Oui, vous aurez peut-être remarqué que dans le récit qui raconte l'avènement du Club de Rome, on n'entend pas de femmes.
C'est vrai.
Or, il y en avait une, c'est Donella Meadows. C'est simplement qu'à l'époque, on a minimisé l'apport de Donella Meadows, son apport scientifique, parfois sciemment. C'est Sandrine Dixon de Clèves qui me l'a expliqué. Elle, et c'est d'ailleurs la première fois qu'une femme occupe ce poste, elle est coprésidente du Club de Rome.
Donella, en fait, est une femme extraordinaire qui non seulement était l'auteur principal du rapport Meadows, mais personne n'en parle, parce qu'ils disent toujours que c'est Dennis, son mari.
En Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, concrètement, dans ce rapport?
C'est elle qui a écrit pratiquement tout le rapport. Bien sûr que la recherche a été faite par les autres associés, mais quand on regarde aussi ce qu'elle a fait par après, toutes les déclarations, les différents livres sur les leviers qu'elle a publiés, c'est une femme extraordinaire qui réfléchissait vraiment, mais qui aussi passait à l'action. Comment est-ce qu'on peut mettre en place le changement dont on veut ? Pas seulement en parler, mais changer nos vies et aussi travailler avec d'autres pour qu'on puisse avoir un changement beaucoup plus efficace.
Et pourtant, ce n'est pas sa voix à elle qu'on a entendue le plus, ce n'est pas sa voix à elle qu'on a mis en avant.
Non, mais c'est souvent le cas. Il y a toujours des femmes derrière qui font le travail. Et puis malheureusement, c'est les hommes. Malheureusement, Donella n'a pas pu avoir son nom comme autrice sur la couverture de la traduction du rapport Meadows en Allemagne parce qu'on lui a dit que les livres ne se vendaient pas quand c'était une femme qui publiait et qu'on ne le prendrait pas au sérieux. Alors maintenant, moi je dis, prenez-nous au sérieux. Nous sommes femmes, mais nous sommes citoyennes et leaders. Et c'est le leadership des femmes qui va nous aider à sortir de ces catastrophes qu'on a devant nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, c'est la voix des femmes qui doit venir devant. On voit par exemple toutes les activistes, que ce soit ici en Belgique avec Adélaïde et Hanouna, à qui je fais un petit clin d'œil parce que on a écrit un livre ensemble, ou même avec la princesse Esmeralda qui fait aussi tous ses efforts, on voit toujours que ce sont les femmes activistes qui sont dans la rue, qui disent absolument quand il faut pas rentrer dans un enjeu de pouvoir ou de destruction. Et maintenant, il faut que cette voix de femme, mais aussi les actions des femmes et les solutions et les différents types de modèles. On voit par exemple que les nouveaux économistes, la semaine dernière, ont été au Parlement européen pour la plus grosse conférence sur une croissance différente, donc Beyond Growth. Et là, on voit que la plupart des nouveaux économistes sont des femmes qui donnent des solutions concrètes sur le fait qu'on peut vraiment agir différemment et continuer à bien survivre.
Voilà, l'histoire comme elle s'est racontée il y a 50 ans, qui ne correspond pas tout à fait, en tout cas, concernant le rôle de Donella Meadows et l'absence de femmes au Club de Rome pendant 50 ans.
Alors, Philippe Roman, je rappelle que vous êtes notre invité, vous êtes économiste à l'ICHEC et à l'UC Louvain, où vous enseignez. On va revenir donc sur ce fameux rapport Meadows. Alors, on a compris qu'il pointait, comme son nom l'indique, des limites du modèle de croissance, mais donc au début des années 70. Mais on peut peut-être être un peu plus précis. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Donc il établit plusieurs scénarios.
Tout à fait. Donc ce rapport essaie d'aller chercher dans différentes disciplines, dans différentes connaissances constituées à l'époque, des relations quantitatives entre des variables, entre... Voilà, la production et la pollution, la production industrielle et les besoins en termes de ressources, entre la croissance démographique et certains besoins en ressources, certains impacts, etc. Et donc, essayer de calibrer ces relations entre variables dans des équations et met bout à bout toutes ces équations dans un grand modèle qui, pour la première fois, à ma connaissance, essaie de modéliser le monde.
Mathématiquement, donc. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est très mathématique comme rapport. Alors, même si on parle beaucoup du livre, mais ceux qui n'ont peut-être pas lu le livre, c'est quand même assez ardu. Hein.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui a permis le développement de ce modèle mathématique, c'était la capacité de calcul des premiers ordinateurs, dont le MIT avait pu acquérir un exemplaire. Et donc, cet ordinateur a été mis au service de ces calculs qui n'auraient probablement pas pu être faits griffonnés sur un papier. Et donc, voilà, c'était la convergence entre cette capacité nouvelle de calcul des théoriciens et théoriciennes des systèmes. Cette pensée du système, cette pensée systémique était déjà là un petit peu en embryonnaire, mais elle a trouvé ici un débouché. Et puis l'idée aussi de ratisser large dans les connaissances existantes, dans les différentes variables qu'on voulait mettre en connexion et qui ont été mises en connexion dans des scénarios.
Et il y a alors un point qui est important aussi et qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, c'est que le rapport Meadows, il donne ses équations, mais il dit à un moment donné, ça peut craquer. Ça peut se crasher et fixe même une date, une fourchette de temps.
Oui. Alors, c'est vrai que dans ces scénarios, il y a beaucoup de scénarios et la plupart des scénarios finissent par crasher. Voilà. Alors, ce qui a pu être critiqué par la suite, par des scientifiques, des économistes, etc., c'est que finalement, le crash était contenu dans les présuppositions des modèles. Voilà, parce qu'à un moment donné, on dit « on n'aura plus de ressources ». Et si on n'a plus de ressources, on ne peut plus alimenter la machine économique. Et donc, fatalement, avec des ressources limitées, on ne peut que crasher. Et c'est pour ça que le seul scénario qui est soutenable, c'est un scénario de steady state, d'état stable dans lequel il n'y a plus de croissance démographique, plus de croissance de la production industrielle. Et finalement, toutes ces variables sont stables dans le temps. Alors, voilà, c'est ici que...
Et le rapport Meadows fixe aussi une date un peu, hein, 2030, 2050, c'est ça ?
Oui, c'est ça, le milieu du 21e siècle. Il y a eu des mises à jour récentes ou du backcasting, c'est-à-dire on essaie de voir si les données depuis les années 70 reproduisent bien ce qui a été, alors je ne dirais pas prédit, mais ce qui a été proposé comme scénario. Et voilà, selon la plupart de ces travaux de backcasting, il semblerait qu'on soit plutôt sur un scénario qui finit dans l'effondrement, ou ce qu'on appelle collapse, ce que vous appelez le crash. Donc on n'est pas vraiment sur le scénario de steady state ou d'état stable.
Alors, il y a une dernière chose, c'est quand même étonnant de se dire que ce rapport qui arrive avec ses conclusions, avec ses scénarios, ait été payé par Volkswagen, par des industriels. C'est quand même quelque chose qui est surprenant.
Alors, moi, je dirais oui et non, parce que je ne pense pas non plus que ce soit un rapport qui soit forcément anti-capitaliste, par exemple. C'est un rapport qui s'alarme, s'inquiète de la pénurie probable de ressources et comme on l'a entendu finalement qui met fort en avant l'idée de démographie galopante, c'est aussi une thématique qui est fort présente depuis au moins les années 50 avec des beaucoup de personnes qui écrivent des livres aussi très importants et qui se vendent beaucoup sur la bombe population, etc. Donc c'est un débat qu'on a beaucoup à cette époque-là. Donc on a peut-être peur dans certains cercles que la croissance démographique ne soit pas gérable. Et puis, on voit aussi que l'industrialisation conduit à certains impacts. La consommation de masse conduit à certains impacts. Il commence à y avoir des rapports scientifiques sur la pollution des cours d'eau. Il y a d'ailleurs un livre très, très fameux de Rachel Carson, 1962, Printemps silencieux, qui fait état justement de ces pollutions. Et je pense que dans certains cénacles, on se rend compte que peut-être qu'il y a des effets néfastes ou des contreparties négatives à ce développement et à cette économie de croissance.
Alors, le Club de Rome et le rapport Meadows, ils ont fait l'objet d'un grand enthousiasme, on l'a dit, hein, 8 millions de copies quand même, c'est énorme, mais aussi de nombreuses critiques, notamment celle de Philippe Braillard, qui est un professeur en sciences politiques en France. Il a écrit en 1982 un livre, on pourrait presque dire un contre-livre au rapport Meadows, qui est titré « L'imposture du Club de Rome ». On l'écoute.
Une double imposture dont le premier élément
est le fait que le Club de Rome prétend, face à la situation actuelle, qu'il considère comme très dangereuse, comme pouvant mettre en péril la survie même de l'espèce humaine, prétend détruire un mythe, le mythe de la croissance, le mythe de la croissance infinie, la croissance quantitative, la croissance matérielle, qui va nécessairement conduire l'humanité à une rupture, à une catastrophe, puisqu'il y a des limites à cette croissance. Détruire un mythe, c'est ce que veut faire le Club de Rome, en remplaçant ce mythe par une analyse scientifique, par une analyse sérieuse et lucide de la réalité. Cependant, il me semble que si l'on examine attentivement ces rapports et les travaux qui ont été élaborés dans le cadre du Club de Rome, on se rend compte que loin d'être le résultat d'une analyse scientifique, d'une analyse lucide et systématique des problèmes actuels, ces travaux sont fondés sur un mythe, non pas le mythe du progrès que l'on prétend détruire, que l'on cherche à détruire, mais un autre mythe, le mythe de la catastrophe, le mythe de la fin. Et ces postulats, précisément, sont des postulats qui appartiennent à un mythe, le mythe de la fin, le mythe de la catastrophe. La seconde imposture, elle est à mon avis encore beaucoup plus forte et beaucoup plus grave, parce que le Club de Rome déclare que le Club de Rome est une institution qui est uniquement vouée au bien de l'humanité, qui est au service de l'humanité, qui cherche à défendre la survie même de l'espèce humaine en danger, et que cette institution, que ce groupement est au-dessus des idéologies, transcende toutes les idéologies, est au-dessus des politiques et des choix politique partisan. En réalité, si vous examinez les différents rapports au Club de Rome, si vous examinez le message du Club de Rome, l'annonce de la catastrophe d'un côté et les propositions d'action pour un avenir meilleur, vous vous rendez compte que des choix politiques très précis, des options politiques se dégagent de ces différentes analyses et qu'une idéologie précisément sous-tend tous ces choix politiques.
Alors il y a deux choses là-dedans. Je trouvais que c'était intéressant de réécouter Philippe Braillard, donc qui est professeur en relations internationales en sciences politiques. Philippe Braillard dit le Club de Rome c'est politique. Est-ce qu'on peut dire que le Club de Rome c'est des écolos ?
Je ne suis pas certain que ce soit des écolos. En tout cas, si on entend par écolo, écologie politique par exemple. Voilà, il y a un certain nombre de critiques de la société de consommation ou même de critiques de la croissance qu'on peut faire remonter à moins années 50. Qui probablement ne se retrouverait pas ou pas complètement dans ces travaux-là, qui concevrait l'écologie comme soit un rapport plus intime à ce que veut dire consommer, ce que veut dire vivre de manière pleine et épanouissante, etc. Et serait un peu réticent à faire cette montée en généralité, de parler de fait hein, de l'espèce humaine, du monde, de la modéliser de manière assez technique et peut-être in fine technocratique. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on a un propos aussi global sur l'humanité, eh bien on peut aussi envisager des solutions très très globales et qui ne seraient pas forcément adaptées à chaque problématique régionale. Donc je suppose que ce n'est pas un écologisme qui serait partagé par la totalité des écologistes.
La première, l'histoire continue.
Alors avec ce rapport Meadows, c'est le thème de la croissance qui vient dans le débat public et celui aussi de la décroissance. On en parlait peut-être déjà avant, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on en parle beaucoup. Est-ce que décroissance, c'est fin de la croissance ou c'est autre croissance ? Parce que ça, c'est encore un débat qui aujourd'hui existe.
Oui. Alors, décroissance, c'est l'idée que la taille ou ce qu'on appelle parfois le métabolisme de l'économie physique et énergétique soit réduit. Donc la quantité de flux énergétique, la transformation d'énergie, de matière, etc., ceci doit être réduit, notamment en premier lieu dans les économies industrialisées, parce que cette dimension-là n'est pas soutenable. Voilà. Alors, il se trouve que la valeur monétaire de l'économie, que l'on calcule souvent à travers le PIB, de ce que l'on produit, de ce que l'on investit, etc., cette valeur-là, elle a tendance à être corrélée au métabolisme de l'économie.
Ouais. Donc, plus si on réduit le moteur, on va moins produire de richesse. Quoi.
Donc, c'est vrai qu'il est probable qu'en réduisant nos consommations d'énergie, etc., on réduise aussi ou on limite la croissance du PIB. Voilà. Et cette corrélation, elle est quand même assez forte. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Les décroissants ne veulent pas forcément réduire à toute force le PIB.
Ils ne veulent pas de la récession.
Ils ne veulent pas de la récession. Alors, ils font la différence entre récession et décroissance. Ils présentent la récession comme quelque chose qui est imposé, qui arrive, mais un peu contre notre gré, alors que la décroissance serait pensée, serait souhaitée, serait équitable, serait juste, etc. Donc, il y a clairement une différence entre décroissance et récession.
Alors, la question qui découle de ce que vous dites, c'est aussi, quelque part, est-ce que le PIB est le bon indicateur, le bon système de mesure pour mesurer tout ça ?
Le PIB, il a des usages qui sont tout à fait légitimes. Il nous donne des informations tout à fait intéressantes sur un certain nombre d'aspects de l'économie. En revanche, ce qui ne devrait pas être, c'est l'alpha et l'oméga de notre
compréhension de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, quand on est croissance, c'est croissance du PIB.
Oui, tout à fait, c'est croissance du PIB. Mais, si vous voulez, il ne devrait pas être le seul indicateur, déjà. Il ne devrait pas être l'objectif final. En fait, ce qu'on appelle idéologie de la croissance ou idéologie de croissance, c'est le fait de mettre cette croissance du PIB comme objectif numéro un, sa maximisation comme objectif numéro un, de le faire passer avant d'autres, peut-être, qualités du système économique. Or, il pourrait y avoir d'autres qualités du système économique. Sa résilience, par exemple, sa capacité à encaisser des chocs, sa justice, la répartition des revenus ou des patrimoines, etc. Et tout ça, c'est vrai, n'est pas reflété dans le PIB. Donc, si on n'a que le PIB comme boussole, bon, ben, on sait un petit peu quelle est la quantité d'activité économique dans un pays, dans un moment, dans une période donnée. Mais j'allais dire, c'est tout.
Est-ce que de la même manière que le Club de Rome a essayé d'anticiper des scénarios, des systèmes à long terme. Aujourd'hui, il y a des chercheurs, des économistes, des scientifiques qui travaillent vers l'avenir de la même manière en essayant de trouver des systèmes qui fonctionneraient, qui seraient à l'équilibre, par exemple.
Oui, tout à fait. Dans le champ de l'économie écologique, il y a tout un ensemble de chercheurs et de chercheuses qui développent des modèles qu'on appelle des modèles de macroéconomie écologique. Parce que, ils se distinguent de la plupart des modèles macroéconomiques habituels parce qu'ils incluent des modules climatiques, des modules d'impact environnementaux, etc. et qui essaient de voir si, on peut assurer, par exemple, des services énergétiques, on peut assurer du bien-être pour toutes et tous, tout en ayant une économie qui ne surconsomme pas et qui ne dépasse pas ce qu'on appelle parfois les frontières planétaires. Et ça, c'est véritablement un champ de recherche qui se développe très rapidement aujourd'hui, qui est très porteur, et on a des modèles comme ça, plus ou moins inspirés du Club de Rome, qui apparaissent et qui, parfois, laisse entrevoir la possibilité d'avoir une économie à la fois stable, qui permet de financer des services publics, la santé, et qui n'est pas forcément en croissance perpétuelle.
Alors j'ai posé la question à Sandrine Dixon de Clèves, de quel était l'héritage du Club de Rome et ce qu'il doit devenir ? On l'écoute.
Pour moi, le grand héritage est basé sur d'abord une chose, qu'on n'a plus le temps. Ça fait maintenant 51 ans en fait qu'on a publié ce rapport. Qu'il y a 51 ans, on avait les scénarios qui nous démontraient ce qu'on pouvait faire. Et maintenant, on est face à une crise permanente qui va en fait faire que les choses doivent être planifiées en urgence. Donc ça, c'est la première chose. Cet élément de temps, on l'a plus. Deuxième élément, c'est qu'on a toutes les évidences nécessaires, scientifiques et économiques pour démontrer qu'il faut absolument qu'on change la façon dont on est en interaction avec l'économie et le système financier et aussi l'environnement. Et donc ça revient à de nouveaux indicateurs économiques qu'il faut absolument qu'on crée et pas juste demander une productivité constante comme on voit dans le PNB. Et puis troisième action, et ça c'est très important et c'est pour ça qu'on a changé les choses et que je suis très fière d'être la première femme, première belge et la plus jeune présidente du Club de Rome, c'est qu'il faut absolument avoir d'abord une conversation et des actions intergénérationnelles, qu'il faut absolument remettre la femme dans la société, avoir un rôle essentiel pour changer les choses, parce que les femmes ont des solutions très différentes de cette patriarchie qui nous a menés dans cette situation qu'on a aujourd'hui, une patriarchie qui est basée sur la puissance et aussi sur le pouvoir et sur l'argent. Et puis, qu'on a absolument besoin aussi d'avoir une conversation active. Dans le temps, en fait, ce rapport Meadows est devenu des scénarios un peu qui ont été, je dirais, par certains, décrétés comme juste du pouvoir intellectuel, mais pas la réalité. Maintenant, il faut traduire cela en réalité et en changement vers des solutions qui ont de l'impact.
Économiquement, pour vous, la solution, c'est ce qu'on appelle la décroissance ?
La solution, c'est de croître autrement. Il faudra, oui, décroître en Europe et dans les pays de l'Ouest, où on voit qu'en fait, on a un impact qui est beaucoup plus gros, donc notre impact sur l'environnement est énorme, et tandis que dans d'autres pays du Sud, il faut continuer à croître, mais différemment, avec moins d'impact sur les ressources naturelles. Donc oui, il faudra vraiment changer la façon dont on interagit avec l'économie, et c'est pour ça que nous, on parle plutôt d'une économie du donut, d'une économie de bien-être, qui, en fait, met une valeur sur ce qui est le plus essentiel. L'être humain, les services sociaux, aussi bien que la nature, avec, bien sûr, une productivité, mais une productivité qui n'est pas juste extractive, mais qui prend en compte l'impact qu'on a sur l'environnement et les ressources naturelles.
Voilà, revoir la grande équation du monde, c'est plus ou moins ce dont on aurait essayé de parler aussi. Merci beaucoup, Philippe Roman, d'avoir été avec nous, économiste, chargé de cours à l'ICHEC et à l'UCLouvain. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.